Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Au village, sans prétention, ils ont mauvaise réputation, les lipides, autrement dit, le gras. Accusé de favoriser les maladies de notre époque, cholestérol, obésité, certains cancers, vous connaissez la liste. Pourtant, le gras est aussi indispensable à notre santé. Nos yeux, nos os, notre peau et même notre cerveau ont besoin de bonnes graisses. Reste à savoir où les trouver, sans non plus en faire une obsession, parce que c'est bien connu, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Comment profiter tout en se faisant du bien? Ben voilà ce qu'on va tenter de faire ce matin. Comment séparer le bon gras de l'ivré? On attend toutes vos recettes, vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000. Vous pouvez également écrire et même laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter. Merci d'être avec nous ce matin. Grand bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Vous entrez dans la catégorie surcharge pondérale classique de la française gourmande. Du croissant au beurre, suivi de son petit frère au petit déjeuner, de la coupette de champagne avec sa farandole d'amuse-gueule pour fêter tout et n'importe quoi à tout bout de champ. Grosso modo, est-ce que je me trompe?
Non, j'adore manger.
Eh oui, résultat des courses, vous avez stocké un peu partout et maintenant, il y a du travail. Il va falloir désengorger tout ça.
Vous croyez que je vais réussir à maigrir, docteur?
Ma méthode est radicale. Vous allez me supprimer tout.
Tout ? Qu'est-ce que je vais manger ?
Rien.
Un extrait du film « J'ai faim » de Florence Quentin avec Catherine Jacob et Jean-Louis Richard, entre autres. Eh bien, nous, on va faire tout le contraire aujourd'hui, hein, dans Grand Bien vous fasse, on va rien supprimer. C'est pas vous, Ariane Grumbach, qui allait dire le contraire, qui est quand même nutritionniste, mais plutôt opposé au régime. Bonjour.
Absolument, bonjour. Ben, effectivement, parce que j'ai observé depuis longtemps que la privation, ça ne marche pas, y compris la privation de gras.
Avec nous également Marie-Caroline Michalski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Lyon et merci d'ailleurs à la technique, à la technicienne au bureau de Lyon, le bureau de France Inter, directrice de recherche de l'INRA, également chef d'équipe au laboratoire Carmen de l'INSERM. Et bonjour Willy Tussardi. Enfin, je devrais plutôt dire Big Will, puisque c'est avec ce surnom qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux. Alors, pour celles et ceux qui ne fréquentent pas les réseaux sociaux, je dois un peu décrire qui est Big Will, c'est-à-dire un croisement entre la statue d'un dieu grec et un joueur des All Blacks, hein, avec les dreadlocks en plus. Même si votre club de rugby à vous, c'est Clermont-Ferrand, où vous êtes installé. Vous êtes ingénieur agronome, spécialisé en nutrition du sport. Et pourtant, votre régime, c'est à base de pizza. J'ai même lu une recette dans votre livre qui s'appelle « La méthode Big Will », c'est aux éditions Solar. Une recette de cordon bleu raclette, s'il vous plaît. Tout ça n'est pas très diet, comme
non,
on dit.
Non, on dirait pas, mais pourtant, si, ça l'est. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la frustration, c'est pas très bon. Et la gourmandise, ça l'est.
Oui, mais le gras non plus peut ne pas être bon.
Il faut savoir faire les deux et maîtriser, en fait, ce qu'on mange. Et sans, pour autant, effacer des choses de notre diète si on les aime. Et pour le gras, c'est exactement la même chose. On ne peut pas se permettre d'arrêter complètement le gras. On en a besoin, comme on le disait, pour la santé. Et pour la gourmandise, qui fait partie aussi, je pense, de notre santé, même mentale. Donc c'est aussi important de savoir se faire plaisir. Il faut juste savoir le faire correctement, sans abuser des bonnes choses.
Alors, puisque nous sommes au mois de janvier, il y a toutes ces méthodes qui nous arrivent en ce moment, le Dry January, on a aussi la possibilité de faire jeûne, mais jeûne un petit peu entrecoupé, enfin voilà, on est abreuvé de méthodes. Avant qu'on parle vraiment du gras, j'aurais aimé votre avis, justement, Ariane Grumbach, sur tous ces régimes qui fleurissent comme ça au mois de janvier.
Chaque année, alors ça fleurit pas seulement en janvier, ça va fleurir au printemps, pour l'été, à la rentrée, ça fleurit tout le temps, parce que c'est un énorme, énorme business. Mais en fait, il faut avoir en tête que c'est finalement assez facile de perdre du poids avec une de ces méthodes qui va marcher à très court terme parce qu'on va arriver à se discipliner, à suivre les règles qui sont données. Mais quasiment dans tous les cas, on reprend du poids. Et donc, tout l'enjeu, et ce sur quoi je travaille, c'est perdre du poids et ne pas en reprendre en trouvant vraiment une façon de manger qu'on va pouvoir garder en mangeant de tout et sans se priver.
Marie-Caroline Michalski, sur ces régimes qui fleurissent à cette époque de l'année.
Oui, alors c'est vrai que je souscris à ce que dit Ariam Grambach. Effectivement, là où il faut faire très attention, c'est qu'il n'y a pas de recherche. On cherche toujours des solutions simples pour essayer de perdre du poids rapidement, mais c'est dangereux parce que c'est pas viable sur le long terme. Et finalement, ce qui compte, c'est de trouver effectivement une alimentation équilibrée qui permette à la fois de répondre à ses besoins tout en se faisant plaisir régulièrement. Et le poids, c'est quelque chose. L'équilibre du poids, c'est quelque chose de multifactoriel. Hein. Il y a les apports en énergie, mais il y a aussi l'activité physique, la qualité de vie, le sommeil, le fait de manger en compagnie. Donc tout ça, ça va pouvoir contribuer à venir réguler le poids.
Alors il y a un régime dont on parle particulièrement aussi en ce moment, c'est le régime cétogène, le fameux régime cétogène, donc à base de de gras.
Hein, à base de beaucoup, beaucoup de gras.
Bah, est-ce que là, vous pouvez nous dire ce que c'est justement que ce régime cétogène?
Alors, le régime cétogène, c'est un régime qui effectivement consiste à manger énormément de gras, que ce soit vraiment la très grande majorité de l'alimentation, et à supprimer totalement les glucides, hein, tout ce qui concerne les sucres, les féculents, tout ce qui va comporter des glucides. Et le problème de ce régime, c'est que en fait, il va marcher à court terme, mais on a aujourd'hui pas assez de recul pour savoir tous les problèmes qu'il peut poser en termes de santé, c'est-à-dire du point de vue de l'alimentation, d'une alimentation équilibrée. Manger autant de gras, ça n'est probablement pas très bon pour les maladies cardiovasculaires, pour les organes, etc. Ce qui se passe, c'est que c'est un régime qui est venu au départ des problèmes d'épilepsie. Et enfin, sans rentrer dans les détails, mais on a observé que manger beaucoup de gras et supprimer les glucides, ça avait un effet au niveau du cerveau qui pouvait régler les problèmes d'épilepsie. Alors, je me suis intéressée au sujet pour une patiente. Aujourd'hui, on a des études sérieuses pour les enfants qui souffrent d'épilepsie, même pas pour les adultes, hein, parce que, en fait, le problème de cette alimentation, c'est l'adopter définitivement, c'est extrêmement compliqué. Donc, arriver à le faire ponctuellement, oui. Arriver à le faire peut-être pour des raisons de santé, déjà, c'est compliqué. Mais le faire uniquement pour perdre du poids, ça n'a pas de sens, parce que là encore, on ne pourra pas tenir cette alimentation dans la durée.
Mais oui, vous voulez réagir.
Moi, j'ai l'impression que le plus dangereux, entre guillemets, dans les régimes, c'est de se fixer des limites, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le but dans une vie, c'est de réussir à avoir un équilibre sur toute la vie, de réussir à se faire plaisir, de réussir à être en bonne santé, voilà, avoir l'activité physique. C'est vrai que dans un régime, souvent, on se fixe une limite. C'est-à-dire, je veux perdre 5 kilos, je veux perdre 10 kilos, je veux le faire en 3 mois, en 2 semaines. Et donc, ça veut dire que après, on fait quoi? Et c'est ça, en fait, on se pose la question, on fait quoi? Et souvent, ce qui se passe, c'est que on atteint certes l'objectif, si on a quelque chose d'efficace, c'est pas très compliqué, comme on le disait tout à l'heure, de trouver quelque chose qui est efficace, mais c'est surtout l'après, en fait. Donc je pense que quand on commence un régime, si on peut appeler ça régime ou autre, il faut pas se fixer une limite, se dire, bon, j'arrête le 31 janvier, j'arrête le 31 décembre, peu importe, je sais. Il faut se dire, je rééquilibre mon alimentation, je réapprends à cuisiner, je réapprends à manger, je réapprends un peu aussi les saveurs, les textures, je découvre peut-être des nouveaux aliments et j'apprends à manger sur le long terme, et c'est comme ça que je vais le faire toute ma vie, en fait.
Je suis tout à fait d'accord.
Marie-Caroline Michelski, vous vouliez réagir à Lyon?
Oui, c'est vrai que donc sur le régime cétogène, effectivement sur le long terme, il y a vraiment pas encore de recul par rapport à cette problématique spéciale de la perte de poids. Hein. Il y a des études qui sont en cours sur des personnes qui souffrent vraiment d'une obésité avancée, qui peut-être pourront donner des effets intéressants, mais en tout cas c'est uniquement sur le court terme. Et effectivement c'est pas viable à long terme. Et ce qui est important de comprendre aussi par rapport à cette problématique du poids, c'est que quand on pense au poids, souvent on pense à perdre finalement de la graisse qui est stockée dans notre organisme. Et ce qui est important quand même de savoir, c'est que à la base, ce qu'on appelle ce tissu adipeux, hein, ce tissu qui a pour vocation à stocker les excès d'énergie sous forme de graisse, c'est vraiment un organe à part entière qui, lorsqu'il fonctionne correctement, finalement est bénéfique pour notre organisme. Là où ça pose des problèmes de santé, c'est quand il dépasse ses capacités de stockage, parce que vraiment on l'a trop sollicité. Donc il faut arriver effectivement à trouver une hygiène de vie et une façon de s'alimenter qui permette de garder un tissu adipeux pas excessif et puis fonctionnant correctement.
Mais alors, qu'est-ce que c'est un tissu adipeux pas excessif?
Alors, Effectivement, bon, là après, ça va, il va y avoir des critères au niveau du syndrome métabolique, du tour de taille, etc. En tout cas, pas excessif. C'est-à-dire, ça peut aussi dépendre des individus. En tout cas, c'est un tissu qui va pouvoir garder sa capacité à aussi diminuer justement lorsque l'on va à nouveau adopter une hygiène de vie où on va avoir suffisamment d'activité physique, une alimentation équilibrée et qui va pas être débordé. Parce que s'il commence à être débordé, à ce moment-là, il peut y avoir des dépôts de graisse qui vont se former dans d'autres tissus. Là où c'est pas prévu pour, comme les muscles par exemple, et c'est là que malheureusement certaines personnes vont tomber dans des problèmes de maladies métaboliques.
Sur franceinter.fr, Max Danière nous a laissé cette note vocale.
Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 36 ans et je mange n'importe comment. Voilà, et je fais à peu près le même poids depuis que je suis adolescent, à savoir 67 kilos pour 1m80. Donc en ce qui me concerne, non, manger gras ne fait pas grossir. Donc voilà, j'aurais bien voulu savoir pourquoi. Merci à tous.
Eh bien, on vous pose la question à tous les trois. Pourquoi Ariane Grumbach ?
Je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre le poids et la santé. Du point de vue du poids, ce monsieur a sans doute un bon métabolisme qui fait que son corps a une bonne capacité à dépenser l'énergie. Mais, alors il faudrait regarder plus en détail, peut-être qu'il exagère, mais je suis pas sûre que son alimentation soit extrêmement bonne pour sa santé. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours une obsession de la perte de poids, de la maîtrise du poids.
Il dit je mange n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il mange forcément mal, il peut manger équilibré, voilà. Un ensemble.
Mais en tout cas, il y a toujours cette obsession du poids, et il y a tellement de démarches fantaisistes qui sont promues, alors que très souvent, on oublie que c'est important aussi de prendre soin de sa santé en ayant une alimentation plaisir, mais variée, équilibrée et saine.
Alors, Marie-Caroline Michalski, on a quand même du mal à s'y retrouver entre le gras, celui qui serait bon pour la santé, et puis l'autre gras, celui qui ne serait pas bon pour la santé. Est-ce qu'il y a un petit topo, une méthode simple, un moyen mnémotechnique de faire le tri dans tout ça ?
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour notre corps, les lipides sont des constituants vraiment essentiels. Hein, on a besoin de consommer des lipides parce que notre corps a besoin d'avoir ces constituants pour les membranes des cellules de notre corps, pour notre cerveau, pour les yeux. Et les lipides, ce sont aussi des composants qui permettent d'avoir des bons apports en vitamines particulières. Notre corps a besoin aussi de cholestérol. Donc, on a besoin un petit peu de tout. Et donc, effectivement, il y a un équilibre dans nos apports alimentaires en lipides qui est recommandé. Donc, par exemple, il est nécessaire d'avoir un apport suffisant en huile qui apporte des acides gras essentiels à notre organisme. Donc, il y a les oméga-3 et les oméga-6. Les oméga-3 végétaux, on n'en consomme pas suffisamment. Il y a 9 Français sur 10 qu'on ne consomme pas suffisamment. Et là, il y a une petite astuce toute simple, c'est de consommer, par exemple, 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou 2 cerneaux de noix par jour. Et là, on va avoir nos apports suffisants en oméga-3 végétaux. Voilà, 15 grammes de beurre sur la tartine, ça peut être remplacé par une quantité équivalente de crème pour avoir la diversité des acides gras laitiers.
Mais alors justement, vous venez de citer Marie-Caroline Michalski, deux aliments qui sont au nid, le beurre et la crème. Donc le beurre et la crème, finalement, c'est pas si mauvais.
Alors, il n'y a pas de mauvaise matière grasse, finalement. Toutes les questions, c'est ce qui a été déjà aussi relayé depuis tout à l'heure, de quantité consommée et de mode de consommation. Donc, effectivement, ce qui va poser un problème au niveau de la gestion du poids et puis aussi plus largement de la santé, ça va être globalement une surconsommation alimentaire. Si on consomme vraiment trop par rapport à nos besoins énergétiques, ça va être néfaste. Par contre, toutes les matières grasses ont leur place dans l'alimentation, et donc tout est question toujours de quantité. Donc, 10 à 20 grammes de beurre, un peu de crème, voilà. Il ne s'agit pas d'une consommation excessive, mais elle permet d'apporter de répondre à des besoins dans certains acides gras qui sont particuliers dans le lait et les produits laitiers, et qui peuvent même contribuer pour ceux de la crème à réguler un bon métabolisme du cholestérol. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver complètement, mais il s'agit de consommer des quantités raisonnable.
En fonction aussi de l'apport des calories, et c'est ce dont vous parlez dans votre livre, Big Will.
Exactement. Souvent aussi, on arrête le gras, on a peur un peu du gras, parce qu'on sait que c'est le nutriment le plus calorique par rapport aux glucides, aux protéines. Donc c'est souvent ça qui fait peur. Et en fait, on aimerait que dans la vie, tout soit facile. Qui est à droite le mauvais gras, à gauche le bon gras. En fait, c'est pas comme ça. On a besoin d'un peu tout, il faut juste savoir équilibrer, comme on le disait. Donc il n'y a pas un aliment qui est bon et qu'on doit consommer tous les jours. C'est pour ça que les diètes et les régimes « je mange des pommes tous les jours » sont appréciés, parce que c'est facile. Et on se dit « bon bah ok, c'est facile, je fonce, j'ai pas à réfléchir, je fais comme ça ». En réalité, la vie, c'est pas comme ça. Et pour tout, c'est pareil. Donc il faut pas se dire « cet aliment, j'ai lu que le saumon apportait des oméga-3 ». Certes, c'est vrai, ça veut pas dire qu'il faut manger que du saumon. J'ai lu que le beurre, c'était des lipides saturés, il faut pas en manger. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'on en a aussi besoin.
Et oui, quand vous parliez de, Thomas, de moyens mnémotechniques, pour moi... ça rejoint ce que dit Big Will, c'est la question de la variété, et la variété dans tous les aliments, et la variété des gras, c'est-à-dire des matières grasses animales, si on n'est pas végétarien, des matières grasses végétales, les différents types de gras, différents types d'huile, du beurre, de la crème, varier les poissons, varier vraiment toutes les matières grasses, des oléagineux, aussi des amandes, des noix, avoir le mot-clé, c'est vraiment la variété des gras.
Alors, l'Agence nationale de sécurité alimentaire considère, a donné un seuil d'apport calorique journalier qui est en gros de 2500 kilocalories pour les hommes, 2000 pour les femmes. Mais en vrai, ça nous parle absolument pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans 2500 kilocalories ou 2000 kilocalories?
Alors moi, je suis pas pour le comptage de calories. Je suis pour l'écoute.
Vous n'êtes pour aucun comptage.
Je suis pour l'écoute du corps, c'est-à-dire que le problème, ce que n'intègre pas cette agence, c'est la question du métabolisme, la question de l'activité physique, etc. On est tous différents, et donc l'idée, c'est d'avoir une alimentation très variée, puis d'expérimenter sur soi, d'écouter sa faim, de savoir s'arrêter, de manger tranquillement, et en fait, on est tous différents, et on a certains besoins, et certaines personnes ont besoin de 1800 calories, mais d'essayer dans ces 1800 calories d'avoir une alimentation saine et variée, d'autres ont peut-être besoin de 3000 calories.
Qu'est-ce qu'il y a dans 1800 calories? À quoi ça correspond?
C'est compliqué, c'est pour ça que moi j'ai accompagné beaucoup de sportifs qui avaient des objectifs précis, que ce soit pour leur physique ou pour leur activité sportive, leur performance sportive. Et donc au début, je conseille toujours d'essayer de compter un peu, mais pas ça devient quelquefois des obsessions, et ça c'est frustrant et c'est pas bon. Mais il faut pour comprendre et essayer de s'y intéresser un peu parfois, et c'est pour ça ce que vous dites, c'est que c'est assez compliqué de savoir 500 calories, qu'est-ce qu'il y a dans 500 calories? Et c'est pour ça que sur ma page, sur mon livre, etc., j'essaie de donner des exemples pour qu'on puisse savoir, bon, okay, si je mets 100 grammes de riz, si je mets un steak ou des haricots rouges ou voilà une compote, combien ça fait de calories, pour avoir une idée. Comme ça, on a des ordres de grandeur, ce qui permet après d'adapter en fait ces portions par rapport à ce dont on a besoin.
Alors, je sais que vous n'aimez pas trop les chiffres,
mais je suis d'accord pour les prises de conscience. Prises de conscience, parce que il y a des personnes effectivement qui n'ont aucun repère et qui croient peut-être que de manger, un brownie et puis de la salade, c'est pareil, enfin je plaisante. Ouais, Donc c'est bien d'avoir des repères pour après s'en libérer et acquérir des habitudes.
Bon, et quoi qu'il arrive, même si vous n'aimez pas les chiffres, donc Ariane Grumbach, il y a, alors là c'est l'Agence européenne cette fois de sécurité des aliments qui recommande jusqu'à 35% d'apport énergétique en matière grasse. Donc ça veut dire vraiment qu'il nous faut du gras,
oui,
quoi qu'il arrive, il n'est pas à bannir.
Je suis d'accord pour intégrer le fait qu'il faut beaucoup de gras, parce que je vois tellement de femmes qui suppriment tous les gras, qui viennent me voir, elles sont quasiment contentes de ça, et elles n'ont pas conscience de tout ce qu'on a dit depuis le début, qu'on a besoin de tout ce gras pour nos organes, pour nos cellules, pour notre cerveau. Donc il faut réintégrer du gras dans notre alimentation, et donc en variant et en ayant toutes sortes de gras.
Marie-Caroline Michalski.
Oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, et pour préciser aussi, parce qu'il y a certainement des parents aussi qui nous écoutent. En fait, depuis une vingtaine d'années, il y a aussi un problème de perception au niveau de l'alimentation des enfants, puisque les enfants jusqu'à 3 ans ont besoin que la moitié de leur énergie soit apportée sous forme de lipides. Et s'ils ont, il y a vraiment maintenant des études scientifiques de plus en plus nombreuses qui montrent que des apports trop faibles en lipides au début de la vie, alors même indépendamment des problèmes de santé que ça peut poser par ailleurs, c'est associé à une augmentation du poids, de la masse grasse lorsqu'ils deviennent jeunes adultes. Donc ça pose des problèmes métaboliques. Et en fait, de nombreux parents finalement n'introduisent pas suffisamment de lipides dans l'alimentation de leur enfant par au contraire, justement, par peur du surpoids, alors que c'est à la fois dangereux pour leur santé et contre-productif. Donc vraiment,
à c'est-à-dire partir du que moment retirer la graisse de l'alimentation d'un enfant peut finalement, au contraire, le faire grossir. C'est ça que vous
exactement,
nous dites.
Exactement. C'est-à-dire que même indépendamment des problèmes de santé que ça peut poser, ça, c'est même contre-productif par rapport à un rebond d'adiposité plus tard dans la vie. C'est ce qu'on appelle la programmation métabolique, c'est-à-dire que l'alimentation dans les 1000 premiers jours de la vie va pouvoir venir conditionner plus des aspects liés à la santé plus tard, mais y compris le poids corporel. Et donc c'est vraiment important de comprendre que chez un petit enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, ben voilà, il est conseillé d'ajouter 1 à 2 cuillerées à café d'huile végétale en alternant avec du beurre, de la crème, de manière à ce qu'ils aient vraiment des apports en lipides et en acides gras essentiels suffisants par rapport à leurs besoins. Sachant qu'aussi que les graisses animales, il ne faut pas oublier qu'elles sont vecteurs de certaines vitamines particulières qui ne sont présentes que dans les graisses animales. On peut penser à la vitamine D par exemple. La vitamine E, la vitamine B12, enfin la vitamine E, il y en a aussi dans les huiles végétales, mais la vitamine B12. Et donc c'est important d'avoir des apports en produits d'origine animale.
Et pour celles et ceux qui seraient végétariens, il existe des alternatives, Ariane Grumbach ?
Alors, pour la vitamine B12, non. Après, si on est végétarien, on peut... Enfin, si on n'est pas végétalien, mais végétarien, on mange quand même des œufs, on mange des laitages, on mange du fromage, donc ça peut aider. Je pense que... Je voudrais juste dire un truc, il y a une confusion... par rapport au titre de l'émission, le gras fait grossir, c'est l'excès qui fait grossir, quel qu'il soit.
C'est fait-il, hein ? C'est une question.
Comme notre corps, il stocke sous forme de graisse, on a tendance à croire que c'est le gras qui fait grossir. Non, c'est l'excès, quel qu'il soit. Hein. C'est l'excès de calories par rapport à nos dépenses qui fait grossir et pas spécifiquement le gras.
Le bon gras, c'est le menu de Grand Bien Vous Fasse, celui qui ne fait pas grossir. Donc, et on attend toujours vos appels 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous écrire, nous laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter. Dans quelques instants, il y aura une recette de harengs pommes de terre à l'huile. Que du bon gras, du chef de Grand Bien Vous Fasse, Grégory Cohen. Mais d'abord, on fait un petit tour dans le jardin d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme au nouveau. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les Fred Astaire, revoir un latte coer. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Je n'en peux plus de t'attendre.
Le jardin d'hiver de Keren Ahn et toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de France Inter.
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Eh bien, je vais faire un hamburger rionnais, parce qu'on n'est pas en Amérique, ici on est à Rion, tout à fait comme on fait ici.
Comme vous le faites chez vous.
Voilà. Là, j'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets.
Léchez-y avant qu'on ait installé sur de la jolie salade.
Ça va de soi, et plus de salade. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein.
Ça nourrit.
Ça nourrit son homme.
Bien sûr. Et ensuite, on va mettre le foie gras par-dessus encore.
Le foie gras, voilà. On ne va pas dire que ce soit nourrissant, mais c'est pas mauvais. Voilà, mon petit. Et on mange.
Ah ben ça, c'est le hamburger qui prouve la belle santé des
Landais. Exactement.
Trois invités pour parler du gras ce matin. Marie-Caroline Michalski, qui est directrice de recherche à l'INRA, Ariane Grunbach, diététicienne à Paris, et Big Will, star des réseaux sociaux et ingénieur agronome. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres vous validez cette recette de Maïté. Big Will, cela dit, du gras, on en trouve dans votre livre de recettes.
Il manque juste peut-être un peu de fromage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
par-dessus, oui.
Par-dessus, bien sûr.
Un peu fondu.
En fait, il ne faut pas confondre l'occasionnel et le régulier. Et évidemment qu'on va pas manger ça tous les jours, et je suis sûre que personne n'a envie de manger ça tous les jours. Une fois de temps en temps, quelque chose qui ressemble à ça avec du gras, pourquoi pas, mais c'est de façon occasionnelle, ça ne présente pas de risque.
Marie-Caroline Michalski, il y a un concept important quand on parle des lipides, du gras et de l'alimentation en général, hein, c'est ce qu'on appelle la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la matrice ?
Alors, merci de souligner ce point important. C'est ce qui est vraiment maintenant très central dans les recherches en nutrition ces dernières années. C'est que jusqu'à présent, on s'est beaucoup focalisé sur identifier des apports optimaux en différents nutriments, donc tel et tel acide gras, telle quantité de protéines. Mais en réalité, comme ça a déjà été évoqué plus tôt, on ne consomme pas des nutriments, on consomme de vrais aliments. Et finalement, les mêmes, on se rend compte dans les études de nutrition santé que les mêmes nutriments peuvent exercer des effets différents selon ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire selon le type d'aliments dans lesquels ils sont contenus et consommés. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait des huiles végétales, mais il y a également des lipides végétaux qui sont contenus dans des noix, dans des amandes, et cette matrice particulière va exercer des effets différents parce que dans l'intestin, ils vont être digérés plus lentement, ça va pouvoir contribuer à nourrir nos bactéries intestinales, hein, les fameux microbiotes. C'est la même chose pour les acides gras saturés. Il y a des travaux sur des milliers de personnes qui ont essayé de regarder les associations entre des augmentations de consommation d'acides gras saturés et les aspects de santé cardiovasculaire en fonction des types d'aliments. Et par exemple, la consommation sous forme de beurre avait l'air d'avoir un effet plutôt neutre. Sous forme de viande rouge, les augmentations de consommation avaient l'air d'avoir un effet plutôt néfaste. En revanche, sous forme de yaourt et de fromage, plutôt un effet bénéfique.
Donc ça dépend vraiment du contenu, finalement. On ne peut plus dire, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, le flacon est important.
Je suppose, Marguerite, que ça valide aussi le fait qu'il vaut beaucoup mieux consommer des oméga-3 par des poissons gras ou de l'huile de colza qu'en prenant des gélules d'oméga-3.
Alors certainement, il y a des travaux qui comparent différentes sources effectivement d'acides gras. Alors ce qui est sûr aussi, c'est qu'en consommant le poisson, il y a aussi une question de, on a la certitude de consommer vraiment les oméga 3 qui sont visés. Et puis effectivement, ces acides gras, ils sont pas tout seuls comme ça dans un aliment. Ils sont associés sous forme de petits paquets, des petites molécules différentes. Et dans le poisson, donc il y a aussi ce qu'on appelle des phospholipides, qui sont aussi importants pour notre organisme. Donc c'est vrai qu'un vrai aliment, une matrice alimentaire, ça n'apporte pas que les acides gras. ça va venir apporter. Donc, par exemple, dans les produits laitiers, on va avoir des bactéries, des probiotiques qui peuvent avoir un effet sur notre microbiote intestinal, du calcium qui va faire que les lipides vont pas être complètement tous absorbés tout de suite par l'intestin. Dans une noix, dans une amande, les lipides sont enchâssés dans des sortes de micro-gouttelettes, hein, qu'on appelle des oléosomes. Donc, on imagine bien que quand on va mastiquer notre amande et que elle va arriver dans notre estomac puis dans notre intestin, le temps que toutes les petites enzymes digestives découpent tout ça, elles vont arriver plus tardivement à digérer les lipides que si on consommait une gélule d'une huile comme ça brute. Et ça va venir aussi réguler un élément important qui est la satiété, hein, toutes ces matrices complexes, les noix, les amandes, les yaourts, les fromages, ça va nous permettre d'être rassasiés plus longtemps et donc peut-être de moins manger la fois suivante. C'est intéressant aussi.
Sur franceinter.fr, Patrick nous dit « Ayant un peu trop de cholestérol, sans surpoids, j'avais éliminé partiellement de ma nourriture certains produits tels que le beurre, la viande rouge, remplacés par des légumineuses, plus des légumes, c'était parfait, mais j'avais des manques, en particulier liés au fait que je fais du sport, de la course à pied, et également des problèmes de sommeil. Récemment, j'ai donc rencontré un naturopathe qui m'a recadré sur ma nourriture en rétablissant un peu de beurre le matin et la viande rouge une à deux fois par semaine, en rétablissant donc une alimentation variée, comme on le disait. Et puis, nous sommes aussi au téléphone avec Laurent. Bonjour, Laurent.
Oui, bon.
Vous vouliez... Ah, Laurent ?
Oui.
Ah, vous vouliez réagir, on vous entend.
Oui, voilà. Donc moi en fait, je suis quelqu'un de comment dire, comment on peut appeler ça, sédentaire. Hein. C'est-à-dire que je travaille dans un bureau, je fais pas de sport, etc., etc. J'ai toujours eu tendance à prendre du poids. J'ai même été assez plutôt obèse étant plus jeune. Et il y a 5 ans, donc j'ai décidé par humanisme, hein, de devenir végane. Et depuis, j'ai un poids qui s'est stabilisé et je n'ai jamais repris un kilo. J'ai un bilan sanguin qui est excellent. Et voilà, niveau défense immunitaire, impeccable également. J'ai vraiment retrouvé une santé et voilà, c'est l'effet gagnant-gagnant. Non seulement donc j'ai pu mettre un terme à la cruauté animale et en même temps retrouver une santé et un poids de forme qui n'a jamais bougé depuis 5 ans.
Ben merci Laurent pour votre appel. Merci à vous, bonne journée.
Merci
pour votre témoignage. C'est vrai que ça dépend aussi des individus et c'est ce que vous dites.
Exactement.
Les uns et les autres.
Hein. Exactement. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, j'ai aussi l'impression que quand on devient végétarien ou végane, il y a aussi un phénomène qui se passe, c'est qu'on s'intéresse à la nutrition. Contrairement quand on n'a pas de régime spécifique entre guillemets, on s'y intéresse pas forcément. Donc on mange comme ce qu'il disait avant, tout et n'importe quoi. Quand on fait une démarche de devenir végétarien, végane ou autre, on s'intéresse à la nutrition et dans ce cas-là, on commence à manger un peu plus équilibré, peu importe si on mange plus de viande ou mange plus de ci ou de ça, on commence à s'y intéresser, on mange plus équilibré et donc la santé va forcément mieux. Donc c'est vrai que par exemple là, il a peut-être arrêté certains produits qui étaient peut-être moins bons pour sa santé, mais qu'il a augmenté d'autres produits, des légumes, etc., qu'il mangeait peut-être beaucoup moins avant. Donc c'est aussi ça, ce phénomène qui se produit.
Voilà. Et ça dépend aussi du patrimoine génétique de chacun, parce que personne n'est égal face au gras, finalement.
Et tout à fait, personne n'est égal face au gras, on a un métabolisme différent. Après, il ne faut pas généraliser, hein. Il y a des personnes qui sont minces et en bonne santé en mangeant de la viande, et il y a aussi des véganes qui mangent n'importe comment, parce que leur priorité, c'est le bien-être animal et pas leur alimentation. Donc tout ça est très complexe, et on est tous différents, mais effectivement, c'est sans que ça devienne obsessionnel, c'est intéressant de conscientiser son alimentation, de s'y intéresser, de cuisiner, de prendre le temps de manger pour, comme le disait Marie-Caroline, bien mastiquer les aliments. Tout ça compte et pas faire tout et n'importe quoi machinalement.
Mais c'est vrai qu'on est tous différents et il faut pas se comparer. C'est pas possible parce que moi personnellement, je sais que j'ai tendance à prendre très vite. D'autres personnes peuvent manger autant que moi sans rien prendre du tout. Donc c'est compliqué de comparer et de dire lui il peut manger ça, moi non. Donc faut vraiment, comme on disait tout à l'heure, s'écouter, écouter notre corps, savoir comment notre corps réagit par rapport à tel ou tel ingrédient, à telle ou telle activité, etc. Et s'écouter et apprendre à connaître son corps et apprendre à manger en conséquence.
Et aussi avoir en tête, pardon, que notre corps est quand même encore marqué par des millénaires et des millénaires, et que nous ne sommes pas faits pour être totalement sédentaires. On est faits pour bouger, donc c'est bien quand même pour d'avoir un minimum d'activité physique.
Oui, là c'est aussi, toujours un plaisir, ratio quoi. Entre l'apport de calories et voilà. Le fait de se déplacer.
Absolument.
Alors, puisqu'on a du mal à s'y retrouver entre le bon gras et le mauvais gras, je vous propose de jouer un petit jeu, une sorte de vrai-faux sur toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le gras. Et pour entrer non pas dans le vif du sujet, mais dans le gras du sujet, je voudrais vous faire écouter l'extrait du film Le Tatoué de Denis de la Paltière avec Jean Gabin, Patelière, pardon, avec Jean Gabin et Louis de Funès.
Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température ?
Voilà, monsieur.
Très bien.
Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes ?
Si.
Mais non.
Si. Me donnerai la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça ?
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Moi, des choux farcis, je ne ferai même pas une bouchée, moi.
Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Ça, donnez-nous deux calvars.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, monsieur.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Hein ? Hein ?
Oh, c'est... Hein ? Donnez-moi du chou farci.
Évidemment, je suis obligé de rappeler que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, mais ça, est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que le trou normand, est-ce que l'alcool, comme le dit Gabin, dissout les graisses ? Ariane Grumbach.
Non, je pense que
c'est un piège, c'est vrai
c'est
et faux.
Alors, je suis pas spécialiste du trou normand, je pense que c'est une impression. Non, il y a aucune dissolution des graisses. Il y a peut-être un effet de facilitation de la digestion qui fait qu'on va pouvoir continuer à manger, mais je veux dire, sur le long terme, ça va dissoudre rien du tout.
Ou alors peut-être l'estomac. Marie-Caroline Michalski.
Oui, alors c'est sûr que les... dans un tube à essai, certains lipides peuvent être... on peut dire entre guillemets dissous dans l'alcool, mais au niveau physiologique, on peut pas considérer que l'alcool ça va dissoudre nos graisses corporelles, ça c'est sûr. Ce qui me semblait intéressant, c'était parce que bon,
il s'agit un mensonge sur le trou normand, hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Ah bon, on peut se sentir peut-être mieux après le trou normand, mais ça c'est autre chose. Au niveau du chou farci, ce qui me semblait intéressant comme exemple, hein, c'est cet aspect de finalement certains aliments ou certains plats sont constitués aussi d'une partie végétale, hein, et il peut y avoir des choix qui contribuent à ce que finalement l'assiette dans sa globalité soit bénéfique, hein, puisque voilà, il peut y avoir des céréales complètes qui apportent des fibres, qu'il y a des légumes racines ou certains condiments, enfin l'ail, les oignons, hein, apportent des fibres particulières dont on découvre très régulièrement en ce moment des bénéfices sur nos bactéries intestinales qui se répercutent sur des bénéfices métaboliques, y compris dans la gestion du poids. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi de rappeler que finalement, l'équilibre et la variété de tous ces légumes et ces assaisonnements qu'on va pouvoir associer dans les plats va pouvoir venir contribuer à des effets santé intéressants.
Alors, il y a cette phrase qu'on répète assez souvent, hein, le plus gras des poissons sera toujours moins gras que la moins grasse des viandes. Vrai ou faux ?
Faux.
Ariane Grumbach. Ah, c'est faux.
Il y a des viandes qui sont assez maigres, il y a des poissons très gras, et je dirais que ça se croise, et là encore, je répète, ce qui compte, c'est la variété sans interdit si on a envie de manger ces aliments-là.
Du poisson, Bigouli, il n'y en a pas beaucoup hein, dans votre livre de recettes.
C'est vrai que j'en fais pas beaucoup et à tort parce que c'est bon.
pour le deuxième tome peut-être.
Ça sera
alors.
Pour le deuxième tome. J'en ai fait, mais des petits nuggets ou des... Voilà. J'essaie toujours d'essayer d'allier un peu ce qui est ce qu'on voit comme la gourmandise, hein, les pizzas, les burgers, etc. C'est en général ce dont on a envie. Et ce qu'on s'interdit, d'en manger parce qu'on pense ou croit que c'est pas bon. Et
ce que vous appelez d'ailleurs le porn food c'est diet. Ça. Alors qu'est-ce que c'est ce porn food diet ?
Bah c'est ça, c'est que on sait que voilà les fast food etc. Tout ce qui est burger, fromage, c'est calorique. Donc parfois on s'interdit d'en manger. Et moi ma façon de penser, ma façon de voir les choses, c'est de se dire si on aime ça, il faut pas s'interdire d'en manger parce que si on s'interdit, on va y arriver sur un certain laps de temps et après on va replonger dedans et encore plus qu'avant. Donc il faut peut-être essayer d'apprendre à les cuisiner d'une façon un peu différente, comme on disait, rajouter peut-être des céréales un peu plus riches en fibres ou avec des viandes différentes, essayer de varier, comme on disait, il y a des viandes qui sont plus grasses que d'autres, avec du poisson, avec voilà, il y a plein de jeux d'ingrédients qui permettent de pouvoir toujours se faire plaisir avec ces aliments-là, les burgers, les pizzas, etc., mais de façon diététique et saine pour notre santé.
Alors, et puis le poisson, c'est pas forcément cuisiner du poisson, c'est aussi les boîtes de thon, de sardines, de maquereau qui sont pratiques et pleines de bons gras.
On pouvait pas aujourd'hui parler du gras sans demander au chef de Grand Bien Vous Fasse de nous concocter un petit menu. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Eh ben du poisson, justement, un poisson qui est assez gras. C'est du hareng et on va faire une recette de hareng pomme à l'huile. Alors c'est vous savez c'est cette recette qu'on a dans les bistrots que je trouve hyper généreuse et conviviale. Pour réaliser les harengs pomme à l'huile, il nous faut 8 filets de hareng traditionnels ou fumés, 500 grammes de pommes de terre à chair ferme, alors de la Roseval par exemple, un oignon blanc, un oignon rouge coupé en rondelles, une carotte tranchée en rondelles, 25 centilitres de lait, 25 centilitres d'huile de tournesol, quelques feuilles de laurier, des graines de coriandre, des graines de poivre, des clous de girofle, et puis on fera une vinaigrette. Alors c'est hyper simple à réaliser, mais c'est un peu long. Donc le matin on va mettre les harengs dans le lait pour les dessaler. On va les laisser dessaler pendant environ 10 heures parce que très souvent on nous dit que le hareng pomme à l'huile c'est un peu trop salé et que du coup c'est pas très bon à manger. En réalité, il faut le dessaler avant. Ensuite, on va les éponger soigneusement. On va les mettre dans un bocal avec le laurier, les rondelles d'oignon, les carottes. On ajoute les graines de poivre, de coriandre, les clous de girofle. On couvre d'huile et on laisse mariner toute la nuit à température ambiante. Alors on peut laisser mariner beaucoup plus longtemps. On peut laisser mariner jusqu'à une semaine. Ça n'en sera que meilleur. Et puis avant de servir, on cuit les pommes de terre. C'est un départ à froid dans l'eau salée pendant environ 25 minutes. On prépare la vinaigrette en mélangeant du vinaigre de vin, l'huile, la moutarde. Alors si on veut une vinaigrette épaisse, on met l'huile en filet et on la monte comme une mayonnaise. Si on veut une vinaigrette fluide, on met l'huile d'un seul coup. Et puis vient le moment du service. On verse la vinaigrette sur les pommes de terre tièdes. On ajoute le hareng, les oignons, les carottes, et hop, le tour est joué. Pour le côté gourmand, on laisse le bocal sur la table pour se resservir, et c'est alors pour la petite anecdote et pour le clin d'œil, c'est la vraie plat de bistrot réconfortant, c'est aussi un des péchés gourmands de Ali Rebéi en fin de soirée.
Eh ben, Ali qu'on embrasse et que vous retrouverez demain dans Grand Bien Vous Fasse. Merci Grégory, votre recette est sur le site de France Inter à la page de Grand Bien Vous Fasse. Le gras rend-il gros? C'est l'une des questions qu'on se pose ce matin avec vous aussi, hein, 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem no âmbito, mas tem sertanejo, pé, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá. Pago brejo, tem ferro, tem glória, groove, Maiara e Maraíza. E ou
sem samba não dá, sem samba não dá.
E ou tem Djonga com Rogério, tem Lúcia e Cabelinho, tem Paca, Chuta, Blue, tem gente pra chuchu. Tem Duda, Beat, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepe, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
tem Bacachu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Tezê da Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho Candidá, 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 Candidá.
Olho pro Cristo ali no Corcovado.
Caetano Veloso, Sem Samba, Naoda. Et un grand merci à toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse, Alexia Rivière, Julia Macarez, Camille Pouget-Laguier, Victorien Thomas qui m'ont aidé à préparer ces émissions. Claire Destacan est à la réalisation avec à la technique cette semaine Pierre-Yves de Rolin, Rémi Sistiaga, Adèle Caglar et Florian Dorémini. Et puis c'est Valentine Chedebois qui choisit la musique. Merci à tous.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Thomas Chauvineau.
Cholestérol, cholestérol, oh, ça m'énerve à la fin, c'est bon. Oh. Si tu écoutes les médecins, les figadelles, c'est une arme de destruction massive. Il faut arrêter les conneries, yo. Oh. Non, attends, parce que ça dépend. Moi, je vois mon père. Ça fait 50 ans qu'il mange de la charcuterie. Mais de la charcuterie corse. Eh ben, mis le cholestérol, tu n'en as pas. Ah, bien sûr, si tu manges n'importe quelle de charcuterie, alors là, c'est du gras gras. Tu comprends? Mais la charcuterie corse, le gras, il est fin. C'est une espèce de gras supérieur, ça n'a rien à voir. En fait, la charcuterie corse, c'est du bon gras, c'est du gras magnifique, rien à voir. C'est simple, tu as du cholestérol, tu t'avales la figadelle, tu n'as plus de cholestérol. Chez nous, il n'y en a pas du cholestérol, ça n'existe pas en Corse. Hein.
Un extrait du film de Cadmerade, Marseille, et trois invités pour parler du gras aujourd'hui. Big Will, qui vient de publier ce livre aux éditions Solar, la méthode Big Will que tous les internautes et les Instagrammeurs connaissent. Marie-Caroline Michalski, qui est directrice de recherche à l'INARA, et Ariane Grumbach, diététicienne. Alors c'est vrai, on n'a pas encore parlé de la charcuterie, accusée des pires maux, hein, à la fois cancérigène et également porteuse de mauvais gras, et notamment ce fameux gras, ces acides trans, ces acides transformés.
Ah hein. Oui, non, mais alors les acides trans, enfin, là, je vais laisser peut-être Marie-Caroline compléter, mais c'est quand même beaucoup lié à une alimentation industrielle et à du gras industriel. Et je pense qu'aujourd'hui, on étudie, alors je ne sais pas encore spécialement, mais que je dirais un cochon bien élevé, bien nourri, va pas produire le même gras qu'un cochon élevé de façon industrielle. Je pense qu'il y a des recherches là-dessus. Puis après, là encore, il y a une question après de fréquence, de modération. Et c'est tout le problème hein, dans les recommandations et les critiques sur la charcuterie, c'est que c'est pas pareil d'en manger beaucoup à tous les repas et d'en manger de façon occasionnelle à l'intérieur d'une alimentation équilibrée.
Marie-Caroline Michalski.
Oui, effectivement, si je peux compléter, donc c'est sûr que les évidences sont importantes sur le fait que le fait de manger vraiment trop souvent de la charcuterie, c'est associé à des risques accrus au niveau du cancer du côlon. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré indépendant des aspects régulation du poids, cholestérol, etc. Ce qui est important quand même de voir, c'est qu'effectivement, il y a différentes qualités de produits. Il y a aussi il y a des charcuteries qui sont avec énormément de d'additifs, etc. Donc ça, on sait que parfois, ça peut modifier peut-être le microbiote intestinal et être associé à des effets délétères. Donc tout dépend, enfin, malgré tout, dans chaque classe d'aliments, tout dépend aussi de la qualité et pour les produits animaux, de l'alimentation des animaux. C'est bien connu que la qualité de l'alimentation des animaux effectivement va influer sur la qualité des lipides qui vont être stockés dans la graisse, que ce soit celle du lait, celle de la viande.
Alors, si on continue notre petit vrai-faux auquel nous avons commencé à jouer tout à l'heure, il y a aussi cette question qui revient très très souvent, en tout cas cette affirmation, il vaut mieux manger gras que manger sucré. Vrai ou faux, Ariane Grumbach?
Il faut se rappeler, ça c'est que là il y a eu une diabolisation du gras qui a été menée à partir des années 50-60 aux États-Unis par le lobby du sucre. Donc pourquoi on a beaucoup accusé le gras, c'était quand même un peu les gens du sucre qui voulaient défendre leurs intérêts. Et je dirais que c'est l'excès des deux qui est un problème, c'est-à-dire que c'est pas le gras, on a vu tous les bienfaits que ça avait, il faut en manger de façon variée dans une alimentation saine. C'est sûr que le sucre, on n'en a pas absolument besoin, Mais ça fait partie aussi des plaisirs de la vie de manger du chocolat ou des pâtisseries. Donc là encore, c'est une question de fréquence et de quantité.
Mais c'est vrai, puisque vous parlez de cette compétition qu'il y a eu entre l'industrie d'un côté du gras et celle du sucre de l'autre côté. Quand on regarde un petit peu l'histoire de la Grèce, pas la Grèce antique, mais notre Grèce à nous, c'était à l'origine un symbole d'opulence que d'être gros. Big Will.
Mais je suppose que ça veut dire qu'on pouvait se permettre de bien manger. Et ce qu'on disait tout à l'heure en comparant le gras et le sucre, en fait, on a besoin des deux. Et moi, je vois pour les sportifs, justement, que c'est vrai que le sucre ou les glucides, en général, sont la première source d'énergie. Donc, elles sont, on diabolise le sucre et pourtant, ils sont hyper importants pour pouvoir effectuer une activité sportive et pouvoir tenir le coup. Donc, faut pas diaboliser aucun ingrédient. Et c'est vrai que moi, si je veux vous vendre un produit qui fait blanc sucre, je vais vous dire que le sucre est pas bon. Et pareil pour le gras. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est pas bon, quelque chose qui est bon. Comme on dit, c'est un équilibre.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, notamment Adèle qui nous dit « Me voilà déculpabilisé, tout ça me donne envie de commencer la quête du Saint Graal ». Merci Adèle pour ce petit trait d'humour. Isabelle nous dit « Le trou normand, j'avais lu que c'était le froid de la glace qui ouvre le pylore et chasse dans l'intestin les aliments non digérés mais et refait de la place dans l'estomac ». On en a fait parler du trou normand tout à l'heure. Et puis Nandini nous demande « Peut-on faire la différence entre les différents gras ? Est-ce que le gras de l'huile d'olive, par exemple, est meilleur que le beurre, et si oui, pourquoi ? Ariane Grimbach.
Alors moi, je préfère dire de varier. Je trouve qu'on a... Je n'ai rien contre l'huile d'olive, mais on l'a un petit peu trop idéalisée. Et donc, il y a des personnes qui ne consomment quasiment plus que de l'huile d'olive comme source de gras. Et là encore, il faut de la variété. L'huile d'olive n'est pas le gras parfait. Va pas notamment, par exemple, nous apporter des oméga-3. Donc, de l'huile d'olive et d'autres sources de gras, c'est ce qu'il y a de mieux.
Et puis, je voudrais qu'on laisse la parole à Tiphaine qui nous a laissé une note vocale assez gourmande.
Oui, bonjour. Alors moi, je voulais vous parler d'une anecdote au sujet d'un collègue à moi qui est épicurien et qui ne jure que par la cuisine grasse. Il tue le cochon, il fait des rillettes et il exploite le cochon sous toutes ses formes. Et notamment, il nous racontait sa recette pour faire des oreilles de cochon. Et donc, il nous disait qu'il les faisait frire dans le sein doux. Alors nous, ça nous avait fait hurler de rire parce qu'on trouvait ça... très gras, et pour lui c'était tout à fait normal, et il nous disait « mais non, c'est pas gras, c'est frit dans le sein doux ».
Le sein doux, vous en parlez assez peu dans votre livre, Big Will, faut pas en rajouter non plus, on a déjà les cordons bleus à la tartiflette.
C'est déjà assez gourmand comme ça.
Est-ce que vous voulez terminer justement sur une recette, puisque nous arrivons au terme de l'émission, Big Will, qu'est-ce que vous allez manger tout à l'heure, quand vous allez ressortir d'ici ?
Tout à l'heure, je sais pas encore, peut-être ce soir, mais moi j'aime bien les burgers, vous l'avez peut-être compris maintenant. J'aime bien, ma recette fétiche, c'est le burger bomb, c'est-à-dire un burger que je travaille avec une pâte spéciale qui est un peu plus allégée, plus riche en fibres, notamment, comme on le disait, les fibres permettent d'augmenter ce sentiment de satiété, donc de manger moins, de moins avoir envie de grignoter derrière, donc c'est quelque chose qui est assez important, justement, si on parle de perte de poids. Et donc, le burger bomb, c'est un burger qui est enrobé dans une pâte spécifique, et avec des ingrédients, on peut se faire plaisir sur les ingrédients en fonction de ce qu'on aime, si on aime les haricots, si on aime la viande, si on aime le fromage, si on aime les crudités, si on peut faire ce qu'on veut, il faut savoir se faire plaisir. Pour moi, c'est important aussi, on parle beaucoup de santé. Le plus important, c'est la santé mentale aussi.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien Vous Fasse. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur franceinter.fr. Demain, 10h, vous retrouverez Ali Rebéi et toute la clique du vendredi. Bonne journée à l'écoute de France Inter.